Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous, bienvenue sur Radio Galaxy, la radio du sud de Toulousain, et nous allons parler région, très grande région, nous allons parler énergie, nous allons parler électricité. Et pour en parler, je suis avec Monsieur Bastien Tout-le-Monde. Monsieur Bastien Tout-le-Monde, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être nommé à un poste au niveau régional chez EDF, c'est quoi ?
Alors tout à fait, je viens de rejoindre le groupe EDF après avoir travaillé pendant longtemps chez Enedis, qui gère les réseaux de distribution d'électricité, dans un rôle qui consiste à porter les enjeux du groupe EDF sur le territoire occitan, de façon à répondre au mieux aux besoins de nos territoires et des industriels et des clients qui s'y trouvent, et un rôle de coordination des différents métiers du groupe présents sur le territoire, de façon à garantir que chacune de nos entités est bien en coopération pour répondre à ces fameux enjeux, entités qui sont aussi bien une centrale nucléaire à Golfech que de grands moyens de production d'hydroélectricité présents sur le territoire, en particulier sur la chaîne pyrénéenne, que de la production éolienne, de la production photovoltaïque ou de l'accompagnement des enjeux énergétiques des clients industriels avec Dalkia, par exemple.
Vous venez de le dire, EDF regroupe plusieurs métiers, plusieurs types d'activités de production d'électricité, mais EDF, c'est un petit peu une nébuleuse pour nous. Ça comporte plusieurs entités. On parle d'Enedis, d'RTE, d'Hydro. C'est quoi tout ça et que représente EDF aujourd'hui ?
Alors, vous avez raison. Le système énergétique, en particulier l'électricité, peut être un petit peu complexe et ça peut être utile qu'on s'en dise deux, trois mots pour que chacun ait les repères utiles à une bonne compréhension. Donc, EDF est une entreprise industrielle qui travaille sur le marché de l'énergie et majoritairement sur le marché de l'énergie électrique. C'est aussi une entreprise dont le capital est détenu à 100% par l'État, donc à la fois au service du pays et au service des enjeux énergétiques et en particulier l'électricité. EDF, que les plus anciens d'entre nous ont connu comme étant porteuse de façon homogène et dans son intégralité de l'ensemble du système électrique, a dû adapter son organisation dans le début des années 2000 pour permettre la mise en concurrence de la production et de la consommation d'électricité sur le territoire, qui était une demande de la Commission européenne. Donc, si on essaie de faire les choses un petit peu simples, n'importe qui en France peut vendre de l'électricité. Pour pouvoir vendre de l'électricité, il faut l'avoir produite ou l'avoir achetée. Donc, n'importe qui peut produire ou acheter de l'électricité. C'est un monde concurrentiel. Par contre, pour pouvoir transporter cette électricité de son lieu de production au lieu de consommation, il faut des réseaux. Et ces réseaux ne peuvent pas être multipliés autant qu'il y a de relations entre un producteur et un consommateur. Donc les réseaux ont été maintenus dans un mode monopolistique. C'est le rôle de RTE pour le réseau de transport et le rôle de Enedis pour le réseau de distribution. Donc vous avez des producteurs en monde concurrentiel, EDF et un certain nombre de concurrents, un transporteur monopolistique RTE, un distributeur monopolistique Enedis et des vendeurs EDF ou ses concurrents.
Tout ça, ça représente sur ce territoire 9500 personnes à peu près, c'est ça ?
C'est environ ça pour le groupe EDF sur le territoire Occitanie et ça représente les différents métiers qui sont présents sur le territoire. En Occitanie, on a une grande chance d'avoir un territoire qui est très varié avec de la montagne, avec de la mer, avec des zones urbaines, avec des zones plus rurales, qui permet à l'ensemble des sujets énergétiques d'être traités de façon pertinente. Donc vous allez y trouver une centrale nucléaire à Golfech, tout un système autour des enjeux du nucléaire dans le Gard rhodanien, de nombreux barrages hydroélectriques, on pourra peut-être revenir dessus, qui jouent un rôle central dans le fonctionnement du système électrique, des réseaux, bien entendu, qui sont un petit peu partout sur le territoire, des activités d'accompagnement des clients avec EDF Commerce ou avec Dalkia pour les services aux entreprises, et un certain nombre d'entités qui vont porter des projets spécifiques ou des besoins spécifiques de nos clients pour les bornes de recharge de véhicules électriques, par exemple.
Une des spécificités, vous venez de le dire, c'est qu'entre ce qu'ont connu nos grands-parents, aujourd'hui, vous êtes confronté également à ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire différents lieux de production, différentes tailles de lieux de production et différents modes de production.
Oui, tout à fait. Le système électrique que nous connaissons a beaucoup évolué depuis celui qu'ont connu nos grands-parents, pour reprendre votre expression. Il a évolué d'un point de vue de son organisation, j'ai essayé de vous en dire deux mots, mais il a aussi évolué d'un point de vue de ce qu'il est physiquement. Dans la fin du XXe siècle, on avait un système électrique qui était assez simple, avec des grands moyens de production centralisés, qui étaient les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, et une consommation qui était suivie, qu'on pouvait anticiper. Et donc, on faisait varier les moyens de production pour s'adapter à la consommation telle qu'elle était. Il faut que chacun ait en tête que physiquement, le système électrique fait qu'il faut qu'il y ait en permanence une adéquation entre la quantité d'électricité qui est injectée et la quantité d'électricité qui est soutirée. Donc, il faut les adapter l'un à l'autre. Depuis, avec le développement en particulier des moyens de production renouvelables alternatifs que sont l'éolien et le photovoltaïque, on ne maîtrise plus complètement les moyens de production. Donc, il faut réussir à trouver d'autres dispositifs qui permettent de garantir cet équilibre entre la production et la consommation. Ça peut se faire en incitant nos clients à consommer quand il y a plutôt plus d'électricité que pas assez. Et ça doit aussi se faire en adaptant d'autres moyens de production, c'est-à-dire faire varier la production des centrales nucléaires ou utiliser le système hydroélectrique qui est un excellent moyen de stockage et d'adaptation de la production aux réalités des besoins de la consommation.
C'est ça, parce que la difficulté de l'électricité, c'est son stockage. C'est-à-dire que l'électricité est un courant. Ça court, ça ne s'arrête pas, c'est toujours en continu. Il y a des recherches qui se font sur les batteries, par exemple, pour pouvoir stocker l'électricité en gros. Mais, comme vous le disiez, c'est je produis, il faut que je consomme. Sinon, je suis obligé d'exporter.
Exactement. Il faut pouvoir avoir cette flexibilité dont je parlais entre la production et la consommation. Et l'électricité se stocke très mal. En fait, le meilleur moyen de stocker l'électricité aujourd'hui, c'est le système hydroélectrique, soit en retenant l'eau dans les barrages pour pouvoir la turbiner, donc la faire descendre en produisant de l'électricité quand on en a besoin, soit au travers des dispositifs qu'on appelle des steppes, où on a un lac en hauteur et un lac en bas, et on remonte de l'eau en consommant de l'électricité quand il y en a trop, et on la redescend quand il y en a pas assez. Après, il faut utiliser d'autres moyens, comme par exemple les batteries que vous citiez, qui sont en cours de développement en termes de technologie et en termes de coûts, mais qui aujourd'hui ne suffisent pas à répondre aux enjeux de flexibilité qu'on évoquait tout à l'heure.
Pour gérer cette dimension de consommation-production, il y a aussi des choses que vous mettez en place dans la communication, des choses qui sont mises en place aussi par les industriels, c'est-à-dire de mieux utiliser l'électricité, de savoir l'utiliser, un petit peu comme on l'a fait pour l'eau, j'allais dire, pendant quelques années, on ferme son robinet quand on ne l'utilise pas, et j'imagine que chez EDF, pour réduire cette consommation électrique et surtout réduire cette empreinte carbone, il y a des conseils qui sont à donner.
Oui, tout à fait. EDF joue un rôle essentiel en France dans la façon dont la question énergétique est traitée. Nous accompagnons les projets de l'État français et nous avons notre propre conviction de ce qu'il est bon de faire au service du pays. Si j'essaie de dire les choses un peu simples, on va viser des objectifs clairs. Un objectif est de garantir que le système fonctionne techniquement. Un autre objectif est de faire en sorte que ce système fonctionne de façon à ce que l'électricité coûte le moins cher possible aux utilisateurs français. On va aussi chercher à faire en sorte que l'énergie qui est consommée pollue le moins possible, donc des enjeux environnementaux. Et enfin, on va s'attacher autant que possible à ce que l'énergie qui est produite et consommée en France le soit en optimisant notre souveraineté énergétique, c'est-à-dire que ça soit avec des produits faits en France, de façon à garantir notre indépendance énergétique.
La participation de 100% de l'État français dans EDF permet cette autonomie énergétique, cette souveraineté dont vous parlez?
Disons qu'elle facilite les choses. Capitalistiquement parlant, c'est effectivement le cas. Après, il faut réussir à mobiliser des moyens industriels qui sont des moyens industriels français. Alors, on a une chance en France, c'est qu'on a un système électrique qui est très bien fait, qui a été très bien conçu par nos anciens, ce qui fait qu'on est capable de produire en France plus d'électricité que nous n'en avons besoin. Donc, l'électricité est produite en France et d'alimenter les pays voisins quand ils le souhaitent au travers d'exportations. Ce qui, par ailleurs, a un effet bénéfique sur la balance économique française, et ça, c'est pas un mal.
Nos consommations en termes d'énergie électrique particulièrement ont tendance à augmenter, en particulier avec les voitures électriques qui sont très gourmandes et le nombre croissant d'appareils qu'on a dans nos maisons.
Alors, oui et non, le sujet est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'abord, il faut parler d'énergie avant de parler d'électricité. L'énergie est un bien précieux et un bien qui peut produire un effet environnemental négatif quand il n'est pas optimisé. Donc, l'objectif numéro un, c'est de réduire nos consommations énergétiques. Ça permet de réduire les coûts et ça permet de réduire l'impact sur l'environnement. Parmi ces énergies, il y en a une qui est complètement décarbonée ou quasiment complètement décarbonée, c'est l'électricité. Donc pour tous les usages pour lesquels nous n'aurions pas réussi ou nous ne réussirions pas à éviter de consommer de l'énergie, il faut faire en sorte que l'énergie que nous consommons, ça soit de l'électricité majoritairement, parce qu'elle est décarbonée, parce qu'elle est produite localement. Donc notre vœu, et c'est avec ça qu'on travaille avec l'État français, c'est qu'on puisse en même temps réduire les consommations énergétiques et augmenter les consommations électriques pour décarboner nos usages. La logique, c'est la suivante. C'est de dire, un, on accompagne chacun de nos clients, en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins, pour réduire ses consommations et se décarboner. Donc plus d'électricité. Étape 1. Étape 2, il faut produire de l'électricité décarbonée à concurrence de ce qu'on aura fait avec les clients. C'est ce qu'on fait avec les centrales nucléaires, avec les énergies renouvelables. Étape 3, il faut avoir des réseaux qui permettent d'acheminer toute cette électricité entre la production et la consommation. Et étape 4, il faut mettre en place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la flexibilité, sur le stockage, des moyens qui permettent d'ajuster production et consommation. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Donc le projet d'entreprise EDF au service de l'État français, ce sont les quatre étapes que je viens de vous décrire.
Quand on parle d'électricité, vous disiez tout à l'heure que nous, on produit suffisamment en France, on est presque autonome en termes de production d'électricité. La difficulté, ça a été les augmentations drastiques de prix qu'on a connues pendant ces trois dernières années. De votre point de vue, c'est, pas dire la faute, la cause, on revient aux marchands, aux commerciaux qui vendent plus cher l'électricité?
Alors, vous êtes un peu taquin quand vous dites les choses comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a une tendance générale qui est que l'énergie a un coût de production, a un coût environnemental, et il faut que le prix auquel elle est vendue soit le reflet de ces coûts, de façon à ce que, un, elle soit juste pour chacun des utilisateurs, deux, ça soit des coûts qui soient suffisamment réalistes pour que les acteurs des systèmes énergétiques puissent continuer à investir dans les moyens de production dont on a besoin aujourd'hui et demain. Et ce sont des investissements de long terme. Quand on construit une centrale nucléaire, c'est pour plusieurs dizaines d'années, et il faut un petit peu de temps pour la construire. Donc il faut trouver ces prix justes. Les coûts ont augmenté ces dernières années. Alors il faut quand même avoir en tête que les prix français, pendant très longtemps, étaient des prix très bas par rapport à ce qui peut être constaté ailleurs. Ils ont monté, ils sont toujours bas par rapport au référentiel européen en particulier, même si on a tendance à se rapprocher de la moyenne. Après, il y a eu, ça c'est une tendance lourde, après il y a eu, vous l'évoquiez, ces dernières années, des phénomènes qui ont pu dérégler le système. Et en particulier, il y a eu en même temps la guerre en Ukraine et des difficultés sur le parc de production nucléaire qu'on appelait les phénomènes de corrosion sous contrainte qui ont mis en tension le système électrique. Et quand on met en tension un système avec moins d'offres et toujours beaucoup de demandes, ça fait monter les prix, c'est ce qui s'est passé.
Deux dernières questions. La première, c'est l'énergie demain, c'est quoi?
Nous, notre conviction à EDF, c'est que c'est une énergie qui est décarbonée, qui est à coût juste, à la fois dans l'intérêt des clients et dans l'intérêt de l'environnement qui en est sensible.
Et qui passe par quel moyen technique de production?
Pour nous, ça doit être un mix équilibré entre les différents moyens de production décarbonés que sont le nucléaire d'une part, et les énergies renouvelables d'autre part. On pense qu'il faut marcher sur ces deux jambes-là.
C'est un peu l'objet de ce qu'on appelle le PPE3 en ce moment, c'est-à-dire le programme, la planification en fait, de l'énergie sur les prochaines années.
Oui, enfin, vous l'évoquez, l'État, à temps régulier, définit sa vision en matière énergétique, ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc là, l'État est en train de discuter la version 3 de cette fameuse PPE, dont on attendait la publication au printemps. La difficulté qui s'est trouvée à trouver un accord entre les différentes sensibilités parlementaires fait que cette PPE n'a pas encore été votée. Et nous, industriels de l'énergie, appelons de nos voeux sa publication la plus rapide possible pour nous donner la visibilité nécessaire pour pouvoir nous projeter et investir.
C'est ce qui définit vos objectifs.
C'est ce qui va dire ce qui est attendu de nous par l'État français.
Dernière question. EDF est en train de changer, la production d'énergie est en train de changer, donc vous avez besoin, j'imagine, de nouveaux talents. Donc il y a de nouveaux recrutements qui vont se mettre en place, de nouveaux métiers qui apparaissent.
Oui, on l'a dit tout à l'heure, le système électrique évolue, n'est pas aujourd'hui ce qu'il était il y a quelques dizaines d'années, et il est en croissance permanente. Donc nous avons besoin de nouveaux talents, à la fois en quantité, donc il faut former des gens, et en technicité, puisque les métiers d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les métiers d'hier, et en particulier toutes les questions relatives à la donnée, à l'informatique, à la capacité à piloter et à prévoir, deviennent cruciaux dans un monde où il nous faut faire vivre un système qui est intermittent, qui est flexible et qui doit s'adapter à la réalité de chacun des besoins. Donc oui, de nombreux besoins. Alors nous travaillons de façon étroite à la fois avec l'éducation nationale pour monter des formations qui correspondent à nos besoins. Ce sont des métiers qui embauchent, donc il faut montrer aux jeunes, et ça se fait dès les classes collèges, tout l'intérêt qu'il y a et toute la beauté qu'il y a à travailler dans le système électrique. Donc première action avec l'éducation nationale, et nous travaillons aussi avec France Travail de façon à permettre et à faciliter l'orientation professionnelle des personnes en situation de chômage pour venir s'impliquer et mettre à disposition leurs compétences dans un système électrique qui en a bien besoin.
Et vous avez, si j'ai bonne mémoire, mis en place aussi des centres de formation à vous comme à Tarbes où on apprend les différents métiers ?
Alors oui, nous scellons des partenariats avec les établissements, de façon à ce qu'on appelle colorer, c'est-à-dire préparer des classes spécifiquement ou particulièrement aux besoins des systèmes énergétiques. Et on est, vous citiez Tarbes tout à l'heure, on est en train de relancer avec l'éducation nationale un campus des métiers et des qualifications qu'on appelle énergie, réseau et décarbonation, qui va s'attacher à mettre en cohérence l'ensemble de l'offre de formation sur le territoire occitan à finalité des industriels de ce domaine.
Bastien Toulmont, merci d'être venu sur Radio Galaxie nous présenter tous ces nouveaux métiers, tous ces nouveaux objectifs et toutes ces nouvelles propositions de la part d'EDF. Et à bientôt peut-être.
Merci beaucoup. Au revoir.
La radio du Sud Toulousain, c'est Radio Galaxie. 98.5 FM.